Chapitre 4 de la loi divine. Le nom de loi, pris d'une manière absolue, signifie ce qui impose une manière d'agir fixe et déterminée à un individu quelconque, ou à tous les individus de la même espèce, ou seulement à quelques-uns. Cette loi dépend d'une nécessité naturelle ou de la volonté des hommes. D'une nécessité naturelle si elle résulte nécessairement de la nature même ou de la définition des choses, de la volonté des hommes si les hommes l'établissent pour la sécurité et la commodité de la vie ou pour d'autres raisons semblables. Dans ce dernier cas, elle constitue proprement le droit. Par exemple, que tout corps qui choque un corps plus petit perde de son propre mouvement ce qu'il en communique à l'autre, voilà une loi universelle des corps qui résulte nécessairement de leur nature. De même encore, c'est une loi fondée sur la nécessité de la nature humaine que le souvenir d'un certain objet rappelle à l'âme un objet semblable ou qu'elle aperçut en même temps que le premier. Mais quand les hommes cèdent ou sont forcés de céder une partie du droit qu'ils tiennent de la nature et s'astreignent à un genre de vie déterminé, je dis que cela dépend de leur bon plaisir. Ce n'est pas que je n'accorde pleinement que toutes choses, sans exception, sont déterminées par les lois universelles de la nature à exister et à agir d'une manière donnée. Mais il y a deux raisons qui me font dire que certaines lois dépendent du bon plaisir des hommes. Premièrement, l'homme, en tant qu'il est une partie de la nature, constitue une partie de la puissance de la nature. Par conséquent, tout ce qui résulte nécessairement de la nature humaine, c'est-à-dire de la nature en tant qu'on la conçoit déterminée par la nature humaine, tout cela résulte, bien que nécessairement, de la puissance de l'homme. D'où il suit qu'on peut dire, en un sens excellent, que l'établissement des lois de cette espèce dépend du bon plaisir des hommes. Elles dépendent en effet de leur puissance à ce point que la nature humaine, en tant qu'elle perçoit les choses comme vraies ou fausses, se peut comprendre très clairement, abstraction faite de ces lois, tandis qu'elle est inintelligible sans ces autres lois nécessaires que nous avions définies plus haut. Deuxièmement, ma seconde raison, c'est que nous devons définir et expliquer les choses par leur cause prochaine. Or, la considération du fatum en général et de l'enchaînement des causes ne peut nous servir de rien pour former et lier nos pensées touchant les choses particulières. J'ajoute que nous ignorons complètement la coordination véritable et le réel enchaînement des choses. Et par conséquent, il vaut mieux pour l'usage de la vie, et il est même indispensable de considérer les choses, non comme nécessaires mais comme possibles. Je n'en dirai pas davantage sur la loi prise d'une manière absolue. Mais comme ce mot de loi semble avoir été appliqué aux choses naturelles par extension, et qu'on entend communément par loi rien d'autre chose qu'un commandement que les hommes peuvent accomplir ou négliger, parce qu'il se borne à retenir la puissance humaine en des limites qu'elle peut franchir et n'impose rien qui surpasse les forces de l'homme, il semble nécessaire de définir la loi dans un sens plus particulier. Une règle de conduite que l'homme s'impose et impose à autrui pour une certaine fin. Toutefois, comme la véritable fin des lois n'est aperçue d'ordinaire que par un petit nombre, la plupart des hommes étant incapables de la comprendre et de régler leur vie suivant la raison, voici le parti qu'ont pris les législateurs afin d'obliger également tous les hommes à l'obéissance. Ils leur ont proposé une fin toute différente de celle qui résulte nécessairement de la nature des lois, promettant à ceux qui les observeraient les biens les plus chers aux vulgaires et menaçant à ceux qui oseraient les violer les châtiments les plus redoutés. Et de telle sorte, ils ont entrepris de maîtriser le vulgaire comme on fait un cheval à l'aide du frein. De là vient qu'on s'est accoutumé d'appeler proprement loi une règle de conduite imposée par certains hommes à tous les autres, et à dire que ceux qui obéissent aux lois vivent sous leur empire et dans une sorte d'esclavage. Mais la vérité est que celui-là seul qui ne rend à chacun son droit que par crainte de la potence obéit à une autorité étrangère et sous la contrainte du mal qu'il redoute. Le nom de juste n'est pas fait pour lui. Au contraire, celui qui rend à chacun son droit parce qu'il connaît la véritable raison des lois et leur nécessité, celui-là agit d'une âme ferme, non par une volonté étrangère, mais par sa volonté propre, et il mérite véritablement le nom d'homme juste. C'est là sans doute ce que Paul a voulu nous apprendre quand il a dit que ceux qui vivaient sous la loi ne pouvaient être justifiés par la loi. La justice, en effet, selon la définition qu'on en donne communément, consiste dans une volonté ferme et durable de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est pourquoi Salomon a dit, Proverbes chapitre 21 verset 12, que l'exécution de la justice est la joie du juste et la terreur du méchant. La loi n'étant donc autre chose qu'une règle de conduite que les hommes s'imposent à eux-mêmes ou imposent aux autres pour une certaine fin, Il paraît convenable de distinguer deux sortes de lois, l'humaine et la divine. J'entends par loi humaine une règle de conduite qui sert à la sécurité de la vie et ne regarde que l'État. J'appelle loi divine celle qui n'a de rapport qu'au souverain bien, c'est-à-dire à la vraie connaissance et à l'amour de Dieu. Ce qui fait que je donne à cette dernière loi le nom de divine, c'est la nature même du souverain bien que je vais expliquer ici en peu de mots et le plus clairement qu'il me sera possible. La meilleure partie de nous-mêmes, c'est l'entendement. Si donc nous voulons chercher ce qui nous est véritablement utile, nous devons nous efforcer de donner à notre entendement toute la perfection possible, puisque notre souverain bien consiste en cette perfection même. Or, comme toute la connaissance humaine et toute certitude parfaite dépendent exclusivement de la connaissance de Dieu, soit parce que sans Dieu rien ne peut exister ni être conçu, soit parce qu'on peut douter de toute chose tant qu'on n'a pas une idée claire et distincte de Dieu, il s'ensuit clairement que c'est à la connaissance de Dieu et à elle seule que notre souverain bien et toute perfection sont attachés. De plus, rien ne pouvant être ni être conçu sans Dieu, il est certain que tout ce qui est dans la nature, considéré dans son essence et dans sa perfection, enveloppe et exprime le concept de Dieu. D'où il résulte qu'à mesure que nous connaissons davantage les choses naturelles, nous acquérons de Dieu une connaissance plus grande et plus parfaite. En d'autres termes, puisque connaître l'effet par sa cause ne serait autre chose que connaître une des propriétés de cette cause, à mesure que nous connaissons davantage les choses naturelles, nous connaissons d'une façon plus parfaite l'essence de Dieu, laquelle est cause de tout le reste. Et par conséquent, toute la connaissance humaine, c'est-à-dire le souverain bien de l'homme, non seulement dépend de la connaissance de Dieu, mais y est contenu tout entier. Cette conséquence, du reste, peut aussi être déduite d'un autre principe, savoir que la perfection de l'homme croît en raison de la nature et de la perfection de l'objet qu'il aime par-dessus tous les autres, et réciproquement. D'où il suit que celui-là est nécessairement le plus parfait et participe le plus complètement à la souveraine béatitude, qui aime par-dessus toute chose la connaissance intellectuelle de l'être le plus parfait, savoir Dieu, et si complet de préférence à tout le reste. Voilà donc notre souverain bien. Voilà le fond de notre béatitude, la connaissance et l'amour de Dieu. Ce principe, une fois posé, tous les moyens nécessaires pour atteindre la fin suprême des actions humaines, je veux dire Dieu en tant que nous en avons l'idée, peuvent très bien s'appeler des commandements de Dieu, puisque l'emploi de ces moyens nous est en quelque sorte prescrit par Dieu même en tant qu'il existe dans notre âme, et par conséquent, la règle de conduite qui se rapporte à cette fin peut aussi très bien recevoir le nom de loi divine. Maintenant, quels sont ces moyens? Quelle est la règle de conduite qui nous est imposée pour atteindre à cette fin? Comment l'État y trouve-t-il son plus solide fondement? Ce sont là des questions qui embrassent la morale tout entière. Or, je ne veux traiter ici de la loi divine que d'une manière générale. Puisqu'il est établi maintenant que l'amour de Dieu fait la suprême félicité de l'homme et sa béatitude, qu'il est la fin dernière et le terme de toutes les actions humaines, on doit conclure que celui-là seul observe la loi divine qui prend soin d'aimer Dieu, non par crainte du châtiment ou par amour d'un autre objet, comme la gloire ou les plaisirs célestes, mais par cela seul qu'il connaît Dieu, ou encore parce qu'il sait que la connaissance et l'amour de Dieu sont le souverain bien. La loi divine est donc tout entière dans ce précepte suprême, aimez Dieu comme votre souverain bien, ce qui veut dire, je le répète, qu'il ne faut point aimer Dieu par crainte du châtiment, ni par amour pour un autre objet, car l'idée de Dieu nous enseigne que Dieu est notre souverain bien, que la connaissance et l'amour de Dieu sont la fin dernière où il faut diriger tous nos actes. C'est là que l'homme charnel ne peut comprendre. Ses préceptes lui semblent chose vaine, parce qu'il n'a de Dieu qu'une connaissance imparfaite, parce qu'il ne trouve dans ce bien suprême qu'on lui propose rien de palpable, rien d'agréable au sens, rien qui flatte la chair, source de ses plus vives jouissances, parce qu'enfin ce bien ne consiste que dans la pensée et dans le pur entendement. Mais pour ceux qui sont capables de comprendre qu'il n'y a rien dans l'homme de supérieur à l'entendement ni de plus parfait qu'une âme saine, je ne doute pas qu'ils l'en jugent tout autrement. Nous avons expliqué ce qui constitue proprement la loi divine. Toutes les lois qui poursuivent un autre objet sont des lois humaines, à moins toutefois qu'elles ne soient consacrées par la révélation, car sous ce point de vue, comme nous l'avons montré plus haut, elles se rapportent à Dieu. Et c'est dans ce sens que la loi de Moïse, tout en étant une loi particulière appropriée au génie particulier et à la conservation d'un seul peuple, peut être appelée loi de Dieu ou loi divine. Nous croyons en effet que cette loi a reçu la consécration de la lumière prophétique. Si nous considérons maintenant avec attention la nature de la loi divine naturelle, telle que nous l'avons définie tout à l'heure, nous reconnaîtrons. Premièrement, qu'elle est universelle, c'est-à-dire commune à tous les hommes. Nous l'avons déduite en effet de la nature humaine prise dans sa généralité. Deuxièmement, qu'elle n'a pas besoin de s'appuyer sur la foi des récits historiques, quels que soient d'ailleurs ces récits. Car comme cette loi divine naturelle se tire de la seule considération de la nature humaine, on la peut également concevoir dans l'âme d'Adam et dans celle d'un autre individu quelconque, dans un solitaire et dans un homme qui vit avec ses semblables. Ce n'est pas non plus la croyance aux récits historiques, si légitime qu'elle soit, qui peut nous donner la connaissance de Dieu, ni par conséquent l'amour de Dieu qui en tire son origine. Cette connaissance, nous la puisons dans les notions universelles qui se révèlent par elles-mêmes et emportent une certitude immédiate, tant il est vrai que la croyance aux récits historiques n'est pas une condition nécessaire pour parvenir au Sauveur-Bien. Toutefois, bien que les récits historiques soient incapables de nous donner la connaissance et l'amour de Dieu, je ne nie point que la lecture de ces récits ne nous soit très utile dans la vie sociale. Plus en effet nous observons, et mieux nous connaissons les mœurs des hommes, que rien ne nous dévoile plus sûrement que leurs actions, plus il nous est facile de vivre en sûreté dans leur commerce et d'accommoder notre vie et notre conduite à leur génie, autant qu'il est raisonnable de le faire. Troisièmement, nous voyons aussi que cette loi divine naturelle ne nous demande pas de cérémonie, c'est-à-dire cette sorte d'action, de soi indifférente, et qu'on appelle bonne qu'à la suite d'une institution, ou si l'on veut, qui représente un certain bien nécessaire au salut, ou enfin, si l'on aime mieux, dont la raison surpasse la portée de l'esprit humain. Car la lumière naturelle n'exige rien de nous qu'elle ne soit capable de nous faire comprendre, et qu'elle ne nous montre clairement comme bon en soi, ou comme moyen d'atteindre à la béatitude. Et quant aux actions qui nous sont bonnes que par le fait d'une institution qui nous les impose, ou en tant que symbole de quelque bien réel, elles sont incapables de perfectionner notre entendement. Ce ne sont que de vaines ombres qu'on ne peut mettre au rang des actions véritablement excellentes, de ces actions filles de l'entendement, qui sont comme les fruits naturels d'une âme saine. Mais il est inutile d'insister plus longuement sur ce point. Quatrièmement, nous voyons enfin que le prix d'avoir observé la loi divine, c'est cette loi elle-même, savoir, de connaître Dieu et de l'aimer d'une âme vraiment libre, d'un amour pur et durable. Le châtiment de ceux qui voient cette loi, c'est la privation de ses biens, la servitude de la chair, et une âme toujours changeante et toujours troublée. Ces quatre points sont bien établis. Nous avons à résoudre les questions suivantes. Premièrement, pouvons-nous, par la lumière naturelle, concevoir Dieu comme un législateur ou comme un prince qui prescrit aux hommes certaines lois? Deuxièmement, qu'enseigne l'Écriture sainte touchant la lumière et la loi naturelle? Troisièmement, pour quelle fin a-t-on institué autrefois les cérémonies religieuses? Quatrièmement, à quoi sert de connaître l'histoire sacrée et d'y croire? Nous traiterons la première et la seconde de ces questions dans le présent chapitre, les deux autres dans le suivant.